parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Mentionner les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple et des bidonvilles.
Sécurité. Ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la belle fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Bonjour et bon matin. Vous écoutez Radio Centre-Ville. Il est 9h du matin. Vous êtes sur les ondes du 102.3 FM pour une nouvelle édition de En bas à gauche en compagnie de Nicolas, Blandine et Maude. Aujourd'hui, mardi 9 novembre, qu'est-ce que nous prépare l'équipe d'En bas à gauche? Alors, je vois que Nicolas me mime qu'il a préparé une entrevue en direct sur le thème de la hausse des tarifs des soins de, en soins de santé. Ce sera suivi d'un court montage audio sur le thème du nucléaire pour donner suite aux grandes mobilisations qui ont eu lieu en France et en Allemagne la fin de semaine dernière. Et enfin, en deuxième partie d'émission, Blandine nous prépare un topo sur les arrêtés du G20. Alors, on enchaîne tout de suite avec notre première chronique sur la hausse des tarifs en soins de santé.
En bas, à gauche. Enjeux et mobilisation.
Bonjour tout le monde, on est en direct ce matin avec Geneviève Lambert, pilote de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Donc au thème ce matin, le problème de la hausse des tarifs au niveau de la santé. Geneviève Lambert, pilote, bonjour.
Bonjour.
Bon, premièrement, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce qui s'est passé depuis, au niveau de la santé, depuis qu'on a eu la hausse des tarifs et le nouveau budget présenté par Bachand en avril 2010?
Ben en fait, depuis qu'il y a eu le budget, bon, il y a eu une grosse mobilisation populaire. Il y a eu naturellement la mise sur pied de la coalition non aux hausses là, contre la privatisation et les tarifications dont la clinique fait partie. Une des choses importantes qui est arrivée, en fait, c'est que le gouvernement a abandonné ou du moins s'est rétracté par rapport à la fameuse taxe santé, là, la franchise santé qui prévoyait faire payer 25 $ pour chaque visite chez le médecin. Ça, le gouvernement a reculé. Donc, nous, on considère que c'est quand même une belle victoire là au niveau de la mobilisation populaire. Malheureusement, bon, on peut pas dire que le combat là, au niveau de la tarification en santé est terminé pour autant parce que, justement, la fameuse contribution santé de 200 $ par adulte d'ici 2012, bien, c'est toujours maintenu. Donc, qu'on gagne 20 000 ou 200 000 $ bien, il va falloir que tout le monde paye cette cotisation-là, à part les gens là, qui sont, comme par exemple, sur l'aide sociale, des choses comme ça. Mais sinon, on constate que c'est une taxe régressive, donc il faut continuer à lutter là, contre cette contribution santé.
Maintenant, qu'est-ce que ça a comme impact au niveau de la société, le fait d'augmenter le prix, en fait, de l'accès à la santé?
Ben, en fait, c'est sûr que, bon, au Québec, l'assurance maladie qui a été mise en place dans les années 70 avait vraiment pour but de rendre accessible la santé, justement, parce qu'avant, il fallait payer. On donne toujours l'exemple que, bon, avant, dans les années 50-60, la principale dette des familles québécoises, c'était les accouchements. Donc, c'est un peu une blague pour dire que, quand une femme accouchait, elle devait payer pour se faire accoucher. Donc, plus on avait d'enfants, plus on était endetté parce que ça coûtait quand même cher. Donc, vraiment, c'est une décision que les Québécois ont pris déjà. Qui voulait un Québec, quel lapsus, un système de santé public universel gratuit. Et puis, justement, là, avec le nouveau budget là, de Bachan qui est régressif, on voit que ça limite vraiment l'accès à la santé. Donc, en fait, c'est que le fait de devoir payer, le problème, en fait, c'est que oui, il y a une augmentation, il y a de la tarification au niveau de la santé, mais c'est aussi combiné avec plein d'autres tarifications. Donc, on pense à l'Hydro-Québec, on pense aux frais de transport, on pense aussi aux frais de scolarité. Donc, tout ça ensemble, plus le coût de la vie, on sait par exemple que le coût du panier d'épicerie a monté de 30% en 4 ans. Donc, tout ça, ça fait que les gens, ils ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. Et puis, donc, ils mangent moins bien. On sait que aussi les déterminants de la santé, tout ce qui est au niveau socio-économique, c'est-à-dire au niveau des revenus, des conditions du logement, tout ça, c'est au moins 50% des déterminants de la santé. Donc, si on coupe au niveau de la prévention, au niveau des services, c'est sûr que ça va faire une différence au niveau de la santé des gens. Parce que, justement, comme je disais, conditions socio-économiques, souvent, ça fait qu'on est en moins meilleure santé. Donc, en bout de ligne, finalement, les gens risquent d'être plus malades ou d'attendre davantage avant d'aller se faire traiter. Donc, ça va faire que, des fois, le traitement va être aussi même plus coûteux. Donc, finalement, c'est vraiment pas une bonne chose pour les gens en général. Là.
Mais justement, le gouvernement, depuis un bout de temps, tend à vouloir privatiser le système de santé publique, en fait, à désinvestir, à mettre un système à deux vitesses, donc un côté privé intégré au système de santé actuel. Mais qu'est-ce qui pousse le gouvernement à prendre ce choix-là en ce moment, alors qu'on sait qu'au niveau social, ça a des impacts qui sont vraiment importants?
Bien, c'est sûr que, bon, mon avis personnel sur la question, c'est que c'est sûr que, bon, le Parti libéral qui est au pouvoir en ce moment, il est aussi, bon, c'est sûr, au niveau du Québec aussi, on est dans un contexte mondial particulier. Donc, il y a eu au niveau de la crise financière, donc les États ont dû débourser des sommes énormes pour sauver les banques, pour payer les dettes. Donc, payer les intérêts sur les dettes, tout ça. Donc, c'est sûr que le fait de s'endetter comme ça, le gouvernement dit, bon, maintenant, il faut qu'on aille trouver des sous pour payer ça. Le gros problème, en fait, c'est que nous, on n'est pas d'accord sur où il va prendre l'argent, en fait, pour payer ça. Donc, c'est sûr que faire payer encore une fois la classe moyenne, puis encore une fois les plus démunis de notre société, pour nous, c'est pas une solution. Il y aurait d'autres moyens d'aller chercher des sous d'une manière qui soit beaucoup plus juste socialement. On pense par exemple à la mise en place d'un régime d'assurance médicaments qui soit entièrement public. Seulement si le gouvernement ferait ça, on évalue que seulement au Québec, on aurait des économies de 2 milliards de dollars par année, parce que, par exemple, on aurait un meilleur rapport de force pour négocier les prix avec les pharmaceutiques, par exemple, des médicaments. On sait aussi que, par exemple, au Québec, il faut attendre 15 ans avant de pouvoir utiliser des médicaments génériques. On se dit, bon, cette règle-là, je pense qu'au Québec, dans tout le Canada, on est la province là, où on est les plus généreux, en tout cas, dans les plus généreux avec les pharmaceutiques. Donc, on considère que ça, c'est vraiment, c'est pas acceptable, puis que ça serait une piste de solution à creuser là, à ce niveau-là. C'est sûr que, quand je parlais du contexte économique, c'est sûr qu'on est dans un contexte aussi néolibéral au niveau du système économique. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la privatisation, on voit qu'on est déjà dans une phase où pratiquement tout ce qui pouvait être privatisé a été privatisé. Donc là, il reste les services publics, justement. Donc là, on essaie de voir si ça serait pas là qu'on pourrait aller encore gratter, faire des sous, tout ça. Mais c'est sûr que ça vient avec tout un courant de pensée là, néolibéral, finalement, qu'on constate qui va pas nécessairement dans le sens de la justice sociale.
Ouais, courant néolibéral d'ailleurs qui a comme objectif principal d'avoir l'entièreté de la société régulée par le marché. Donc pour eux, ça explique un peu leur vision de privatiser les différents services publics qu'on a. Mais par rapport à ça, justement, la clinique communautaire, face à cette privatisation-là, quelle position elle a pris, puis quels moyens elle a pris aussi pour défendre justement les services qu'elle donne et qu'elle dessert au quartier?
Écoutez, nous, depuis, ça fait plus de 40 ans que la clinique existe. Dans nos principes de base, on est vraiment dans notre mandat ou notre mission, si on veut. Pour nous, la santé, c'est un droit essentiel collectif non négociable. D'ailleurs, même à notre dernière Assemblée générale, les résidents du quartier ont donné comme priorité pour cette année à la clinique là, de lutter pour le droit à la santé, c'est-à-dire là, de poursuivre la mobilisation citoyenne pour le droit à la santé, plus particulièrement pour un système de santé publique universel, accessible et gratuit, et contre la privatisation des services de santé. Donc, en fait, il y a un comité qu'on a appelé le comité de lutte en santé qui s'est mis sur pied pour regrouper les citoyens dans le but là, de discuter des enjeux en santé, puis aussi de développer avec eux un plan d'action pour favoriser l'accès aux services, tant à la clinique et dans le quartier que par rapport à l'ensemble du système de santé. Donc, ce comité de lutte en santé-là, bon, c'est un des moyens là, que la clinique a mis en place pour lutter pour ça. Donc, on a fait plusieurs communiqués qui ont paru dans différents médias. On a pris des positions, on a fait installer des grandes bannières, par exemple, sur la clinique. Là, prochainement, on va faire une assemblée publique, justement, où on va interpeller les gens en disant, bon, on veut lutter pour une meilleure santé, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quartier? Parce que c'est sûr qu'il y a le contexte national, mais il ne faut pas oublier qu'on peut toujours aussi travailler des alternatives au niveau local dans nos quartiers. Donc ça, c'est toutes des choses que la clinique fait. On fait aussi partie de différents regroupements, différentes coalitions, comme la coalition Solidarité Santé, avec qui là, on lutte là, depuis plusieurs années. On fait aussi partie, comme je le disais précédemment, de la coalition Non aux hausses, donc avec plein d'autres organismes. On a pris aussi, par exemple, récemment, on a appuyé la campagne pour un régime d'assurance médicaments entièrement public de l'Union des consommateurs, donc qui a aussi plus de 130 autres organismes là, qui ont appuyé. Donc pour nous, c'est des manières concrètes, mais aussi des manières au niveau de la réflexion, tout ça, là. Donc afin de continuer dans la lutte, mais vraiment ce qui est essentiel pour nous, c'est de aussi rendre l'information accessible puis d'essayer de sensibiliser puis de mobiliser les résidents du quartier là, à ces problématiques puis à ces enjeux-là.
Donc, si un résident du quartier ou une résidente du quartier veut justement se mobiliser par rapport à cet enjeu-là, où il peut aller chercher de l'information?
Bien, c'est sûr, il y a notre site web, donc HTTP. En fait, c'est ça parce qu'il n'y a pas les trois W avant. Là. Dans le fond, c'est directement ccpsc.qc.ca. Donc, on a plusieurs sections donc sur le site web, là, sur le droit à la santé, aussi contre la privatisation, la tarification, aussi toutes les actions, activités qui se passent à ce niveau-là. Dans le quartier, mais aussi au niveau des coalitions avec lesquelles on fait partie. Donc, parce que c'est ça, je disais que bon, le 22 novembre, nous, on fait une assemblée publique, mais le 23 novembre, c'est une journée de mobilisation et de manifestation et action au niveau national là, qui a été appelée par la coalition Non aux Hausses. Donc, c'est un autre exemple de ce que vous pouvez retrouver sur notre site web. Sinon, c'est sûr que vous pouvez aussi téléphoner directement à la clinique. On a une téléphoniste qui est là toujours. Il y a quelqu'un, si vous téléphonez, vous pouvez parler à quelqu'un, demander d'avoir plus d'informations. Donc, vous téléphonez au 514-937-9251.
OK. En terminant, c'est quoi votre vision pour l'évolution justement du système de santé au Canada dans le contexte actuel?
Bien, je pense que avec la conjoncture là, ou le contexte actuel, ce qu'on voit, c'est qu'on a un peu comme pas le choix de se mobiliser si on veut ne serait-ce que maintenir nos acquis. Donc, des acquis sociaux là, pour lesquels on a lutté, pour lesquels on a déjà fait des choix de société. Donc, pour nous, c'est essentiel là, justement de se mobiliser, de prendre la parole, d'aller sur la place publique, de montrer qu'il y a une opposition, de montrer que aussi que le discours dominant qu'on entend toujours dans les médias de masse, là, qui prônent la privatisation comme la seule solution. Pour nous, c'est important de donner d'autres informations, puis des informations c'est sûr que je voulais dire non biaisé, c'est sûr qu'on pourrait dire qu'on est biaisé nous aussi, mais en tout cas pour avoir d'autres des informations disons plus complètes, on a beaucoup d'informations au niveau de c'est quoi les mythes au niveau de la santé, des choses comme ça, il y a beaucoup de choses à démystifier, par exemple sur les aînés, le poids sur le système de santé, donc il y a beaucoup de choses là-dessus qu'il y a à démystifier, donc j'invite les gens à s'informer là, via d'autres réseaux, via d'autres sources d'informations, là, peut-être que simplement les médias traditionnels. Là.
Geneviève, un gros merci et bonne journée.
Depuis qu'on parle de l'hiver nucléaire pour les hommes, est-ce que ça sentirait pas un peu la fin de l'automne? Méfions-nous, l'empire de la thune veut encore exploser l'atome. Ils craignent les énergies qui coûteraient 3 centimes. Au début des 60s, les USA ont poussé la France à d'y laisser. Contrat de nucléaire civil, soit des centrales au grand jour et la bombe en secret. Alors ici encore, on fait des watts avec, même si c'est un gouffre économique. 300 milliards de subventions publiques. Pourritaire et rien pour l'écologique. Leur but est de vendre des trucs à neutrons. Faire croire que c'est propre et les crétins vont croire qu'on a dompté les protons. À travers les plaines de l'Hexagone, il y a encore 58 réacteurs d'échappement pour 110 000 tonnes. Des incidents presque tous les jours. Arriva au Niger dans ces mines d'uranium, contamine les villages sans que des gars l'analysent. Sur nos routes, on envoie des convois de plutonium, de monique et des régions dans des camions qu'on banalise. Et même si les trois quarts de l'Europe stoppent, que le monde entier attend qu'on démantèle, il faut le PR et les ouvriers staffent des journées de ouf au cœur des centrales. Désolé pour ta confiance, ta précieuse insouciance, l'endroit le plus dangereux du globe et peut-être en France.
Alors, vous écoutiez Sortir du nucléaire de Duval Messé. Vous aurez le plaisir d'écouter la fin de la chanson dans quelques minutes. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec l'équipe de En bas à gauche. Et cette chanson, Sortir du nucléaire, annonçait notre prochain thème qui, pour donner suite aux mobilisations de la fin de semaine, nous avons choisi de parler du nucléaire et des castors. Que sont les castors? Ce sont les conteneurs de déchets de très haute activité, donc des déchets radioactifs qui ont transité en fin de semaine, qui sont partis en fait vendredi dernier de La Hague en France. pour arriver malgré tout à destination le lundi dans le nord de l'Allemagne. Donc, ce convoi qu'on appelle aussi le train de la mort était constitué de 11 castors qui transportaient 123 tonnes. Alors ça, c'est selon les médias allemands et français, parce que selon le Devoir, c'est 154 tonnes, donc plus de 100 tonnes, disons, de déchets retraités de l'usine de la Hague en Normandie. C'est une usine qui est dirigée par la multinationale Areva, la ex-Cogema. Alors, tout au long du trajet, tant en France qu'en Allemagne, des manifestants et manifestantes ont tenté de bloquer le convoi. Certains se sont enchaînés à des rails, d'autres ont tenté de saboter la voie ferrée, tandis que des milliers d'autres organisaient des sit-ins près des rails ou, enfin, sur les voies ferrées même. Le samedi à Dannenberg, c'est dans le nord de l'Allemagne, ce sont 50 000 manifestants qui se sont rassemblés. Alors, il y avait 17 000 policiers présents qui, bien sûr, ont fait usage de leurs matraques, gaz lacrymogène, canons à eau, etc., pour déloger les manifestants. Malgré tout, les manifestations ont toutefois réussi à retarder de plus de 10 heures le surnommé « train de l'enfer », c'est-à-dire le convoi des 11 castors. Alors, ce qu'il faut savoir et qui était pas nécessairement dit dans les journaux en fin de semaine, c'est que ce convoi, c'est pas le premier. En fait, depuis 95, ce sont 12 convois de castors qui ont été acheminés de la France vers Gorleben, au nord de l'Allemagne, où les déchets nucléaires sont stockés sous un dôme de sel et où des fuites radioactives ont eu lieu par le passé, d'où la grogne populaire. Alors, à ce sujet, nous vous proposons d'écouter un petit montage audio qui commence par une entrevue réalisée en direct le samedi matin à Berg. Alors, lorsque les manifestants sont regroupés pour attendre le passage du convoi de déchets radioactifs, c'est une entrevue qui a été traduite par Son en lutte et qui sera suivie d'une entrevue réalisée par Canal Sud, une radio alternative française, avec Laura Hameau du réseau Sortir du nucléaire. Une entrevue qui a été réalisée quelques jours avant les grandes mobilisations et qui nous explique un peu quels sont les enjeux autour du convoi de déchets radioactifs.
On se situe à la frontière avec la France dans une petite ville qui s'appelle Berg. Alors que se passe-t-il à Berg? Il y a sur environ 500 mètres de gens qui bloquent la voie de chemin de fer. La police et la presse sont sur place. On est par ailleurs un peu avant le sud de la gare, en fin de cortège de manifestation. Alors vous êtes assis sur l'itinéraire du transport nucléaire entre la France et l'Allemagne. Combien êtes-vous environ? C'est difficile à dire, je ne vois qu'une petite partie puisque la police est partout. Je dirais qu'il y a des gens sur 500 mètres dans une direction et sur une centaine de mètres dans l'autre direction. En tous les cas, il y a du monde sur la voie de chemin de fer pour...
Alors, en fait, c'est un transport de déchets vitrifiés allemands qui viennent de l'usine de retraitement de La Hague et qui vont être acheminés jusqu'au site de Gorleben. Alors, pourquoi, en fait, ces déchets viennent-ils de La Hague ? Il faut revenir un peu en avance. Donc, en France, 78% de l'électricité est d'origine nucléaire. Cette production d'électricité nucléaire génère une quantité énorme de déchets dont l'industrie nucléaire n'a jamais su que faire et ne sait toujours pas quoi faire. En 1965, les autorités françaises ont décidé d'ouvrir une usine de retraitement du combustible irradié à La Hague dans la Manche. De nombreux pays, pendant des années, ont envoyé leurs déchets nucléaires, donc leur combustible usé, dans cette usine de retraitement de La Hague.
Retraitement, ça veut dire quoi?
Alors, retraiter les déchets, en fait, c'est une opération qui consiste à séparer les différents radioéléments. Donc, on sépare l'uranium de retraitement, ça c'est 95 à 96%, ensuite du plutonium, 1 à 2%, et 3 à 4% de déchets de très haute activité radioactive. Et donc, c'est ces 3 à 4% de déchets très hautement radioactifs qu'on fond ensuite dans du verre, et c'est ça qu'on appelle les déchets vitrifiés. Ces déchets vitrifiés sont ensuite déposés dans des containers qu'on appelle canisters, qui sont eux-mêmes ensuite déposés dans de plus gros containers qui font environ 1000 tonnes, qu'on appelle des castors. Et donc ces castors, c'est les wagons qu'on va pouvoir voir défiler par le train. Ce transport contient 11 castors.
Et ces castors vont où?
Alors, ils vont aller jusqu'au site de Gorleben en Allemagne. Alors, le site de Gorleben en Allemagne, c'est un site d'entreposage intermédiaire et les autorités allemandes souhaiteraient qu'ensuite ces déchets soient stockés dans un site d'enfouissement creusé dans une mine de sel. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, cette mine de sel, ce site, n'est pas un bon site de stockage. C'est le cas de La Hague. La Hague n'est pas un bon site de stockage, mais Gorleben ne l'est pas non plus. Et c'est pour ça que le réseau de sortir du nucléaire et les antinucléaires allemands se mobilisent contre ce transport.
C'est quoi la différence entre un bon site de stockage et un mauvais site de stockage?
Clairement, aujourd'hui, il n'existe aucun bon site de stockage. Il n'existe aucune solution technique pour gérer les déchets nucléaires. Et c'est bien ça le problème. On continue de produire aveuglément des quantités, des tonnes et des tonnes de déchets chaque année, alors qu'aujourd'hui, on ne sait techniquement pas quoi en faire.
Et quand ils vont pas à Gorleben, les déchets nucléaires, ils vont où?
Eh bien, globalement, aujourd'hui, ils sont stockés dans des sites d'entreposage intermédiaire parce qu'on ne sait pas bien quoi en faire. Ou alors, on les stocke dans des sites qui sont soi-disant des sites définitifs, par exemple le centre de stockage de la Manche, le CSM, qui a été géré pendant des années par l'Andra, a été présenté comme un site de stockage sûr et définitif. Or, il a été fermé, mis en surveillance aujourd'hui, les déchets sont stockés, et on s'aperçoit que les fûts dans lesquels les déchets étaient conditionnés ont rouillé, se sont ouverts, les sols se sont affaissés, et la nappe phréatique qui est en dessous, parce qu'on a construit ce centre de stockage au-dessus d'une nappe phréatique, est complètement contaminée, et ça contamine tous les cours d'eau de cette partie de la Manche. En Europe, on produit une électricité d'origine nucléaire. Comme on ne sait pas quoi faire de nos déchets, on les envoie le plus loin possible de chez nous. Et si possible, dans des pays qui acceptent sans grande condition de recevoir ces déchets. Par exemple, pour l'uranium de retraitement, on les a envoyés dans des plaines en Sibérie, où ils étaient stockés à ciel ouvert.
Est-ce que là, on y aurait moyen de se passer du nucléaire avec la consommation d'électricité actuelle de la planète, ou est-ce que...
Ah ben oui, tout à fait. Et d'ailleurs, notre revendication derrière toute cette mobilisation par rapport à ce transport, c'est que puisqu'il n'existe aucune solution pour gérer les déchets nucléaires, il faut dès maintenant arrêter d'en produire et sortir du nucléaire. Sortir du nucléaire, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Déjà, il faut commencer par réduire massivement notre consommation d'énergie et puis ensuite, l'énergie qu'on consomme, la produire par des sources d'énergie renouvelable. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas une bonne solution. Il ne faut pas faire du tout éolien, il ne faut pas faire du tout solaire, mais il faut développer un mix énergétique. Le réseau Sortir du Nucléaire se mobilise. On est vraiment là pour protester contre l'existence de ce convoi, pour protester contre les déchets, contre le nucléaire de manière globale, pour mettre en lumière l'impasse que constituent ces déchets, et puis aussi pour faire connaître l'existence de ce transport, parce que ce type de transport est complètement tenu secret. Et c'est ça qui n'est pas normal, parce que c'est un transport qui est très radioactif. À titre de comparaison, on a fait des calculs.
Optométriste sans frontières lance une collecte de lunettes usagées pour les enfants de Tanzanie. En février 2011, des optométristes bénévoles se rendront dans une école orphelinat de Tanzanie dans le but d'offrir des lunettes de prescription à plus de 600 enfants. Jusqu'au début janvier, apportez vos lunettes à Radio Centre-Ville. Besoin urgent de lunettes d'enfants. Venez porter vos lunettes à Radio Centre-Ville, 5212 Saint-Laurent, coin Fermante. Pour de l'information sur l'organisme, visitez optométristesansfrontières.ca.
Vos émissions préférées sont de retour à Radio Centre-Ville. Au bel âge, traite des préoccupations des aînés les mardis de 10h à 11h. Tout de suite après, de 11h à 11h30, Je vote pour la science vous informe de l'actualité scientifique. Portrait danse est de retour les jeudis de 13h à 13h30. Découvrez nos nouvelles émissions. En bas, à gauche, fait le tour de l'actualité internationale les mardis de 9h à 10h. Bouffée d'air frais vous parle d'horticulture les mardis de 13h à 14h. Voix francophone, les vendredis de 11h à 11h30, jette un coup d'œil sur l'actualité et la musique francophone. Écoutez-nous au 102,3 FM ou sur notre site radiocentreville.com.
Ici Yves Lambert, le vendredi 19 novembre, je serai au Club Soda, en compagnie de Pascal Picard-Ben, les Lost Finger, Papa Groove, Antoine Graton, So Cold et plusieurs autres pour la soirée bénéfice Jeunes Musiciens du Monde. Bien disponible sur jeunesmusiciensdumonde.org, une présentation de la Capitale Groupe Financier.
Vous avez une soif inaltérable de savoir ? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102.3 FM et sur le câble au 88.3.
C'est au moins deux fois plus de radioactivité que ce qui a pu être dégagé lors de l'accident de Tchernobyl, donc c'est énorme. Et le problème, c'est que les populations et les élus ne sont même pas informés qu'un tel convoi va passer à côté de chez eux.
Un seul réacteur pète et la région est dévastée. Sur 100 km à la ronde, on serait condamné. Et d'autres plus lentement verront leur rein ne plus fonctionner, leur peau se décomposer, leurs os se désagréger. 26 avril 86, Tchernobyl a explosé, l'Europe est contaminée, l'URSS est ruinée. Les plantes, l'eau, les solaires et les murs sont irradiés. Là-bas, les enfants monstres hurlent leur humanité. La structure atomique embarque et détraquante et son impact est invisible. Et nous concocte un paquet de tracas cliniques. On en mesure à peine les conséquences entraînent. On va compter encore des dégâts et pas qu'en Ukraine. Du césium 137 en Corse, des brebis difformes en Écosse. Et des milliers de gens qui carburent les Levothyrox. En PACA, tu sais, y'a tarpin de thyroïde en galère. De l'Hérault jusqu'au Mercantour, il n'y a pas que mon père. 60 000 tonnes de déchets par an. On enterre, les outils, les machines irradiées. On enterre, les combinaisons, les gants pollués. On enterre, plus de place à la hague, alors dans l'aube. Ces abrutis osent dire que leurs sarcophages sont sûrs que durant plus de 20 millions d'années ça va tenir. On laisse le problème à nos arrières, 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 petits enfants. Le seul pays au monde autant équipé nucléaire et le plus grand consommateur en antidépresseurs. Désolé, le tableau est bien sombre, mais il est clair. Pour le dire et vite enfin sortir du nucléaire.
Alors, vous êtes à Radio Centre-Ville 102.3 FM à l'émission En bas à gauche. Vous venez d'entendre une chronique faite avec quelqu'un en direct de l'Europe sur un convoi de nucléaire qui a été malheureusement coupé par la trame automatique de publicité. Alors, on en est désolé. Pour faire un parallèle sur l'enjeu du nucléaire, à savoir que au Canada, il était question il n'y a pas longtemps de transporter sur toute la voie maritime des déchets nucléaires provenant de l'Ontario en bateau pour les amener jusqu'en Suède. Alors, c'est un dossier à suivre parce que c'est vraiment dangereux et important à savoir ce qui va se passer avec ça finalement. Aussi, un autre dossier où le nucléaire fait énormément de ravages, c'est dans l'exploitation minière. Alors, à savoir qu'à 3 heures au nord de Montréal, dans le coin de Mont-Laurier, il y a un projet de minière de radium qui est en fait qui veut s'ouvrir, qui va avoir énormément d'impact au niveau des écosystèmes par la radiation qui sort par les gaz et par l'extraction minière. Et on a le même type de projet qui veut s'ouvrir en ce moment dans le coin de cette île. Alors, c'est des dossiers qui sont vraiment importants, qui ont un impact socio-économique vraiment important, parfois grave, qui implique souvent le déplacement de villages entiers et la destruction des économies locales, et en plus d'une pollution qui va affecter les communautés pendant des années. Alors, c'est des dossiers à suivre qui sont très présents au Québec, donc à suivre l'extraction minière et le déplacement des déchets nucléaires au travers du Canada.
Anaki edachi godagi aganiwich atrizugan egasi bigadek nigan pimadis yuene adawe kechinam gichi kechinam kata ani tagwa pimadis yuen tapishko chawezi zake gagwe pimadis yuach. Merci. ciel, les forêts jusqu'au fond de l'océan. J'admire toute culture jusqu'au cinquième continent. En tant que nomade, j'explore la nature sur le dos d'une tortue, celle qu'on torture. La mère Terre est en train de vivre un désastre, une histoire qu'on efface, un avenir qui s'éteint. C'est certain, pour certains, les lendemains sont restreints comme les animaux qui survivent par instinct. On est assimilé à l'illusion de la société, aux multinationales que notre culture a hérité, qui est loin d'être mérité. Je suis plutôt irrité qu'on se fout de la mère Terre jusqu'à faire fondre les glaciers. On délègue à nos enfants rien de plus que la fin du monde. On est des putains d'égoïstes, ignorant que la Terre succombe. Que Dieu bénisse l'Amérique, fuck that. Que Dieu bénisse la Terre et tous les peuples qui ont souffert. Edaji, Kodagia, Kaniwich, Adizogan, Egasi, Bigadek, Nigan, Bimadi, Tiwenea, Tawe, Kichinam, Kichi, Kichinam, Kata, Ani, Tagua, Bimadi, Siwenta, Pishko, Jawesi, Zaki, Gangwe, Bimadi, Ziwach, Ijo, Jominanaki, Edaji, Kodagia, Kaniwich, Adizogan, Egasi, Bigadek, Nigan, Bimadi, Siwenea, Tawe, Chinam kichi chinam kata ani takwa bimadi ziwenda pishko chawezi zake kakwe bimadi ziwach. Nikichi minonan wagwe. Nikichi minonan kakina.
Alors, c'était le chanteur Samian qui nous chantait en Anishinaabe sur le dos d'une tortue. Alors, nous sommes rendus à notre un petit topo qu'a préparé Blandine sur le sujet, sur le suivi qui est fait avec les arrêtés, les manifestants arrêtés lors du G20 à Toronto cet été.
Que de donde son, que de donde son, que son de la barricada, y de donde son, que de donde son, que son de la barricada.
Alors, comme tu l'annonçais, Maud, un petit topo sur le G20, mais pas seulement sur les arrêtés. Alors, effectivement, le prétexte, c'est une manifestation de soutien aux arrêtés qui a lieu vendredi soir. Je vous l'annonce tout de suite, je vous la rappellerai plus tard. C'est à 17h30 au Square Cabot, métro Atwater, donc vendredi 12 novembre. Mais vendredi 12 novembre, c'est aussi le G20 à Séoul. Alors, c'est une manifestation qui, en même temps, est en solidarité avec les manifestations qui vont avoir lieu à Séoul. Et pour faire un peu le suivi sur la raison de ces arrestations-là. C'est-à-dire qu'on a parlé des conditions de détention, je vais revenir sur la situation des arrêtés en tant que telle, mais c'est important de remettre en contexte la source de pourquoi les gens sont allés manifester et pourquoi jeudi prochain, il y aura plus de 50 000 polices en train de faire la chasse à beaucoup plus que 50 000 manifestants à Séoul. Alors notamment, il y a plusieurs communiqués en ce moment qui circulent de la coalition à Séoul des organisations sociales. Donc parmi ces organisations sociales-là, c'est une coalition qui réunit des groupes comme un groupe qui s'appelle Le Monde n'est pas à vendre, dont le nom est évocateur, beaucoup de syndicats, beaucoup d'organisations étudiantes, également le mouvement paysan associé à Via Campesina, donc mouvement international paysan. Et on voit, en regardant les revendications, que le type d'argumentaire mis de l'avant par cette coalition-là est exactement la même que on voit le même spectre de revendications contre les politiques du G20 qu'on a vu à Toronto et qu'on voit en fait depuis 10-15 ans face à toutes ces rencontres-là. Alors rappelons qu'une base de l'argumentation, c'est que du mouvement le plus radical au plus libéral qui s'oppose au G20, c'est la remise en question de la légitimité. Puisque même d'un point de vue de la démocratie libérale représentative actuelle, les personnes qui se réunissent au G20 n'ont pas de mandat. Ils n'ont pas le droit un représentant de l'État, il n'y a pas carte blanche comme ça, comme c'est le cas au G20, où ce que ça y va de grandes déclarations, et tout ce qui est décidé au G20 est ensuite appliqué dans les pays. Donc, au lieu du contraire, même du point de vue de démocratique représentatif. Au-delà de ça, c'est aussi un symbole de l'application des politiques capitalistes et néolibérales. Donc, c'est donc les revendications en matière de santé, comme on parlait plus tôt, ou les revendications en matière d'accès à la terre, notamment dans les pays où ce que la paysannerie est pas encore éradiquée comme ici, même s'il reste des gens qui se battent. Donc, c'est ce même spectre de revendications-là qu'on voit. Alors, en ce moment, ce qui se passe à Séoul, c'est assez impressionnant. Il y a des démonstrations de force de la police. Ils sont assez épeurants. Je vous avoue que je pensais que les gros anti-émeutes du Canada, c'était épeurant, mais des petits ninjas coréens qui sautent sur les manifestants, c'est tout à fait inquiétant. Et je vous recommande quelques bons vidéos sur des sites commerciaux qu'on mentionnera pas. Et aussi, c'est le resserrement des frontières, c'est-à-dire que parallèlement, donc on ouvre grand les portes aux représentants du G20, et là, la fameuse coalition qui s'appelle Put People First, donc mettre les gens en premier, qui est cette coalition avec tous ces groupes-là, Via Campesina, Le Monde n'est pas à vendre et d'autres syndicats, dénonce le fait que ils ont invité des personnes à participer à un sommet des peuples. Donc c'est une tradition aussi, quand il y a des sommets du G20, d'organiser des sommets des peuples qui sont un peu comme des forums sociaux, des conférences dans lesquelles les groupes sociaux du monde réseautent. Plus de 200 personnes se sont vues refuser l'accès à la Corée. Il y a notamment eu des expulsions. Il y a plusieurs activistes qui étaient là depuis plusieurs mois, parfois plusieurs années, qui ont été déportés de Corée en prévision du G20. Alors, il y a vraiment ce mouvement-là de faire venir des représentants d'État et de mettre dehors, littéralement, des militants, militantes des droits humains, des droits paysans, etc. De les mettre dehors. Alors ça, c'est le contexte à Séoul, et donc on voit que ces manifestations-là vont avoir lieu avec un peu le même climat. Notamment, il y avait une conférence de presse cette semaine où ce que la coalition annonçait qu'elle allait se rendre vers le lieu physique du sommet, qui évidemment va être barricadé comme à son habitude, et évidemment à ce moment-là la police dit qu'ils vont les empêcher. Alors il y a tout ce discours après ça qui s'articule autour de la violence. Les manifestants seront-ils violents? On voit la même rhétorique et même les parallèles avec Toronto sont faits. Est-ce que les Coréens seront aussi violents que les gens à Toronto là, dans les médias? C'est assez drôle. Et on voit donc que c'est cette même rhétorique de on va aller confronter ce sommet-là, et là, c'est les manifestants qui sont violents, puisque la police a été obligée de les attaquer, puisqu'ils ont marché vers une barricade qui était pas légitime. Fait que cette espèce d'argument-là, comme si c'était pas les politiques du G20 qui étaient la source même de la violence, ou le fait de déployer une occupation de type militaire avec 50 000 policiers au centre-ville de Séoul, comme si c'était pas ça qui pouvait être vu comme de la violence. Alors, ça serait un peu ça mon topo pour Séoul, mais je ferai le lien avec ce qui se passe au Québec, puisque donc, je vous le disais, il y a une manifestation vendredi qui est à l'initiative de la convergence des luttes anticapitalistes 2010 à Montréal, et des arrêtés, donc, puisque on rappelle, il y a eu 1000 arrestations au mois de juin à Toronto, et de ces 1000 arrestations-là, il y a 200 personnes qui se sont retrouvées avec des accusations criminelles. Il y en a 20 notamment, en fait 19 maintenant, puisqu'il y en a un qui a vu ses charges retirées, qui ont été arrêtés de façon préventive, donc c'est-à-dire avant les manifestations de la fin de semaine du G20, et qui sont accusés de complot. L'accusation du complot, c'est d'avoir organisé les manifestations. Alors là, on voit une confusion entre manifestations et Black Bloc. Là, on les accuse d'avoir organisé le Black Bloc parce qu'ils ont organisé des autobus, par exemple les gens de Montréal qui ont organisé des autobus pour se rendre à Toronto. C'est d'ailleurs très amusant, puisque dans la logique de ces arrestations-là, on arrête les gens qui ont organisé les autobus, et après ça, ils ont arrêté les 70 personnes du Québec qui dormaient dans le gymnase de l'Université de Toronto le dimanche matin, les arrêtant comme étant le Black Bloc, comme si le Black Bloc, ces gens qu'on voit se réunir habillés en noir dans les manifestations, comme si ils étaient tous allés dormir au gymnase en attendant que la police vienne les réveiller. D'ailleurs, donc de ces 200 arrestations-là, toutes les personnes qui étaient arrêtées au gymnase on leur a retiré leur charge. Alors pour la petite histoire, on leur a retiré leur charge parce que Il n'y avait pas de mandat, en fait, quand la police est rentrée pour arrêter tout le monde dans le gymnase de Toronto. Ils ont fait ça sur un high d'adrénaline du dimanche matin. Et il n'y avait pas vraiment de mandat d'arrestation. Donc, ils ont pas pu, ils ont même pas pu s'amuser à essayer de trouver des preuves. Alors, en ce moment, au Québec, des 100 et quelques personnes qui avaient des accusations criminelles, il en reste 8. Alors, c'est pour vous dire, là, heureusement que, parce que là, tout le discours, c'était que tout le Black Bloc et toutes les destructions avaient été causées par les méchants Québécois qui étaient allés foutre le bordel, pour dire ça poliment, à Toronto. Et il reste 8 personnes accusées avec, avec quand même des conditions assez, assez difficiles. Il y en a 4 là-dessus qui sont en prison à la maison, c'est-à-dire que concrètement, c'est comme être en prison, mais c'est tes amis qui sont tes geôliers, ça coûte moins cher. Donc, il y a 4 personnes qui... ça met en question la question d'être présumé innocent, puisqu'il n'y a pas encore aucune preuve qui a été versée pour dire sont-ils coupables ou non, mais ces personnes-là voient leur vie hypothéquée depuis 5 mois. Il y en a plusieurs qui ont perdu leur emploi ou des choses comme ça. Notamment, il y en a un qui n'a pas le droit d'être... il y a un ordre de non-association avec son collègue de travail. Alors, ça va très mal pour travailler dans ce temps-là. C'est illégal d'être avec son collègue de travail. Alors, ça, c'est pour la partie des accusations. Il reste en tout au Canada 100 de personnes là, qui ont encore des accusations criminelles. Mais à chaque fois qu'il y a des audiences, la moitié tombe quasiment. D'un autre côté, toutes les personnes qui ont été arrêtées, c'est-à-dire accusations ou non, ont entrepris plusieurs démarches pour remettre en question les activités de la police, les conditions de détention, etc. Alors, on nommera notamment, il y a eu une audience à la Commission interaméricaine de droits humains qui a eu lieu il y a 2 semaines pour dénoncer justement la situation et le caractère politique de cette répression-là, le fait que c'est pas pour rien qu'on arrête les gens quand ils contestent politiquement, et même si les accusations tombent finalement, c'est une façon de dissuader les gens de contester et de s'opposer. Alors, il y a quand même eu quelques petits résultats, notamment le chef de la police de Toronto, M. Blair, a été obligé d'annoncer que 90 policiers seront sanctionnés parce qu'ils avaient volontairement enlevé leur badge pour ne pas être identifiés lorsqu'ils frappaient des manifestants. Et il y a aussi une commission parlementaire qui est en cours. Il y a eu plusieurs témoignages. Puis je vais juste vous faire un petit extrait du type de débat qu'on y voit. Parce qu'il y a deux jeunes femmes québécoises qui sont allées témoigner il y a une semaine. Et à ce moment-là, donc comment ça se passe une commission parlementaire? On fait un témoignage, puis les députés peuvent nous poser des questions. Alors, le député conservateur albertain, Brent Radgeber, a questionné les jeunes femmes sur le fait qu'elles se sont rendues à Toronto à bord des autobus fournis par la coalition anticapitaliste, donc la CLAC, la même qui organise les manifestations. Et alors, elles ont répondu oui, mais et alors, c'est pas illégal en soi. Et donc, lui, il a répondu donc ça signifiait, si elles avaient pris ces autobus-là, que à long terme, leur objectif, c'était de renverser le gouvernement de Stephen Harper. Donc, leur manifestation était illégale. Donc, l'activité de la police était bien fondée. Alors bon, on sait sûr que c'est facile de taper sur la tête des députés conservateurs. Ils ont l'art des déclarations ridicules, mais celle-là a quand même surpassé certaines espérances. Alors voyez-vous, maintenant, si vous allez manifester contre le gouvernement Harper, c'est que vous voulez renverser le gouvernement, donc c'est de la sédition, du complot contre l'État, etc. Alors on voit la logique qui se déroule. Alors donc, je rappelle, la manifestation a lieu vendredi à 17h30 au métro Atwater. Puis vous pouvez avoir plus d'informations sur le site de la CLAC, clac2010.net. On y trouve aussi une nouvelle édition du journal de la CLAC. Le premier s'appelait Coup de semonce, le deuxième s'appelle Coup de chien. Si comme moi, vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire, eh bien allez voir le journal, il y a une définition. Nicolas, est-ce que tu aurais des questions, commentaires, ajouts?
Ben, seulement commenter qu'au niveau des médias de masse en général, il y a absolument à peu près aucun commentaire sur les thèmes des discussions qu'il y a durant les 3 jours qui constituent le G20 en général, alors que c'est des décisions qui sont prises qui concernent la majorité de la population, tant au niveau politique qu'économique. On nous donne un communiqué pour chaque G20 de 2 pages qui est supposé nous résumer 3 jours de conversation. Alors on peut se poser des sérieuses questions quant à la transparence de ces sommets-là.
Puis d'ailleurs, sur le site de CLAC 2010, vous pouvez retrouver un documentaire qui a été fait par Nicolas, petite plug, sur le G20 et qui peut expliquer les enjeux qui entourent ces rencontres-là. Alors, on va prendre une petite pause musicale avec justement la chanson G8-G20, Crash the Meeting. C'est une chanson en anglais, mais qui a été faite avant le sommet à Toronto. Puis pour la petite histoire, les deux personnes qui ont fait ce petit clip-là, qui a été vu par plus de 100 000 personnes assez rapidement, les deux personnes qui ont fait ce clip-là se sont vues accusées d'avoir incité à la violence. Alors c'est le petit contexte de cette chanson-là, G8-G20, Crash the Meeting. On se retrouve dans un instant, vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM. On se retrouve pour la suite de En bas à gauche.
You can't go in the world without opposition to your plans. I'm making it twirl around your greedy fingers. We watching it swirl down the drain. Insane economics of fall. See, we're not buying what you're selling. Even with your propaganda telling media barons rebelling, we're yelling. No justice, no peace in the streets. It's just us versus the elite police. See, a better world we see. So we're free when we speak. Oil's at its peak, and we got it a beat. The status quo will keep us unable to speak. On our knees saying, please, we reap what we sow. So you know the whole plan is out of control. To go to home power while we get the blindfold. Truth be told, it's the same old song and dance. We're down to the wire. Might be our last chance to advance. Humanity, take your stance. The power of the people, a street romance. United, we cannot be defeated. G20, we're ready. T-Dot, it's time to creep down. G8, G20, they few, we many. G8, G20, they few, we many. Every single one of us has a reason. Together we're strong, let's crash the meeting. Every single one of us has a reason. Together we're strong, let's crash the meeting. Chattering the so-called social peace. Windows getting smashed live on TV. 2010 is here, confront the beast. Reclaim the streets, fuck the police. Bringing that fire, it's incendiary. Cause they're locking down streets with the military. And the progress is death, it's a cemetery. This ain't Canada, this is native territory. Turtle Island, East Coast of Salish. Fucking colonizers just keep on taking. February 2010, confront invasion. G20, duly, big tree blazing. Destroy the SBP wherever it gets stationed. Take over everything with occupation. War of all, more self-determination. Social war against our nation. No control against domination. Against the empire and its colonization. Against the war and the government agents. Against authority for liberation. G8, G20, they few, we many. G8, G20, they few, we many. Every single one of us has a reason. Together we're strong, let's crack the meeting.
Alors, comme le disait la gang de Anarchid Chris avec leur chanson Tout le monde a une raison, détruisons le sommet, ce fameux appel à la violence. Alors pour finir, en bas à gauche, on a le fameux et l'incroyable anti-hebdo. Et oui, l'événement des gens qui ont mis leur télé par la fenêtre et qui veulent faire d'autres choses cette semaine à Montréal, une ville où il se passe beaucoup de choses. Alors peut-être une petite annonce si ça vous intéresse. Il y a la conférence des radiodiffuseurs communautaires, donc la marque qui avait eu lieu à Montréal il y a deux ans maintenant, donc dont Radio Centre-Ville fait partie. C'est en Argentine, alors si vous passiez par l'Argentine, vous pouvez aller faire un tour à la conférence des radiodiffuseurs qui a lieu cette semaine. Mais c'est aussi un peu plus proche de chez vous, les journées québécoises de la solidarité internationale du 3 au 13 novembre. Vous pouvez aller voir toute la programmation avec un brin de regard critique. Il y a des très bons événements et d'autres qui ont l'air un petit peu plus téléphonés. Mais par exemple, il y a le projet accompagnement Québec-Guatemala qui vous invite mercredi 10 novembre à un dîner causerie sous la thématique « Derrière un grain de café ». Donc sur les droits des travailleurs du café au Guatemala, il y a Leocardio Huracan, un militant des droits humains qui vient du Guatemala spécialement pour l'occasion. Alors vous pourriez le rencontrer de midi à 13h30 si vous passiez par le métropolitain au 565 boulevard Crémazie Est. Donc c'est dans l'édifice de la FTQ à la salle Marie Pinsenot, deuxième étage. Si vous n'avez pas eu le temps d'écrire tout ça, vous pouvez retrouver l'information sur le site des GQSI, mais aussi sur l'agenda militant.info. Jeudi le 11 novembre, une petite plug Radio Centre-Ville, les Souverains Anonymes présenteront une émission spéciale sur Omar Khader avec Patricio Henriquez et Luc Côté, réalisateur du documentaire Vous n'aimez pas la vérité, et Béatrice Vaugrand, directrice d'Amnesty International. Alors manquez pas cette émission spéciale qui va être donc ce jeudi de 15h à 16h, donc sur le film Vous n'aimez pas la vérité, 4 jours à Guantanamo. Et également jeudi, donc grosse journée, manif action contre le projet de reconstruction de l'échangeur Turcotte. Ça va être de 13h30 à 16h. Le lieu de rendez-vous, c'est au CEDA, 2515 rue de Lille, au métro Lionel-Groulx. Alors le petit contexte, c'est qu'un an après le rapport du BAP affirmant que le ministère des Transports devait faire ses devoirs, les citoyennes du Sud-Ouest sont toujours dans le noir quant à la reconstruction de l'échangeur Turcotte, fait que là, ben en fait, plus que dans le Nord, ils ont annoncé là, qu'ils allaient aller de l'avant. Alors, une occasion de plus de manifester. Vous pouvez vous renseigner et réserver votre place auprès du comité logement du quartier Le Pas-Pire. Attention, je vais vous donner le numéro de téléphone 935-4649 dans le 514. Alors, je vous le rappelle une dernière fois, vendredi 12 novembre, manifestation de Toronto à Séoul et à Montréal, résistons au G20 avec un appel donc au métro Atwater à 17h30 vendredi. Toute la fin de semaine, c'est l'Exposine de Montréal, édition 2010. Alors, ça va être toute la fin de semaine, de midi à 18h, au 5035 rue Saint-Dominique. Entrée gratuite, il y a une soirée d'ouverture vendredi soir avec des DJ, etc. Le site web pour plus d'informations, exposine.ca. La soirée du vendredi est à la Sala Rossa, 4848 Saint-Laurent. C'est une célébration culturelle indépendante qui réunit environ 300 créateurs et créatrices de publications, livres, fanzines, bandes dessinées, en anglais comme en français. Fait que c'est une des plus grandes foires de ces productions autonomes de poésie, littérature, idées, politique, art, etc. Donc à ne pas manquer. Et pour finir cette fin de semaine, vous pourriez aller donc dimanche à partir de 15h à la centrale, donc ce lieu d'exposition féministe, comment qu'on appelle ça, une galerie, voilà, c'est ça. C'est le lancement de la monographie du collectif de recherche sur l'autonomie collective CRAC Québec, avec la monographie sur les Panthères Roses, un groupe queer à Montréal. Si vous ne saviez pas ce que voulait dire queer, eh bien voilà une bonne occasion. Donc le CRAC vous invite à cette journée d'activité pour le lancement de la monographie. À l'inverse des milliers de gays et lesbiennes qui marchent gentiment dans la direction indiquée par les leaders, les Panthères Roses et toujours plus de monde ont décidé désormais de désobéir à ça, au capitalisme rose, à l'hétérosociété, aux règles des genres binaires, à toutes les lois ennemies de la liberté, de l'égalité et aux ennemis d'une terre verte sans frontières étatiques et sans frontières sexuelles. Alors, à ne pas manquer. C'est ce qui conclut cette édition de En bas à gauche. On vous laisse avec Le Bel Âge pour la suite de la programmation de Radio Centre-Ville 102.3 FM. N'hésitez pas à voir notre site web enbasagauche.wordpress.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine.
Parrainage Civique Montréal organise qui favorise l'intégration des personnes ayant une déficience intellectuelle à un urgent besoin d'hommes bénévoles de plus de 18 ans pour vivre une riche amitié avec de jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Une rencontre mensuelle, seulement 5 heures par mois de votre temps pour des activités sportives, culturelles ou de loisirs. Devenez bénévole à Parrainage Civique Montréal. 514-843-8813 843-8813 ou visitez le www.parrainagemontréal.org.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Voulez-vous passer des moments agréables? Alors écoutez tous les mardis à partir de 5h30 Nagent Kumagent avec au menu chronique, de la bonne animation et comme toujours de la bonne musique pour tous les goûts. Joignez-vous à nous avec notre équipe dynamique portugaise à Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Ici Yves Lambert, le vendredi 19 novembre, je serai au Club Soda, en compagnie de Pascal Picard-Ben, les Lost Finger, Papa Groove, Antoine Graton, So Cold et plusieurs autres pour la soirée bénéfice Jeunes Musiciens du Monde. Bien disponible sur jeunesmusiciensdumonde.org, une présentation de la Capitale Groupe Financier.
En matière de musique du monde, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.